Cet attentat, non seulement évidemment, a une portée politique et considérable, parce qu'elle place le pape comme au centre d'une géostratégie mondiale, où le bloc communiste, évidemment, a une part très très importante, mais aussi cet attentat inaugure la portée mystique du pontificat de Jean-Paul II. Le cours très particulier que la balle a emprunté, dit-il, dans son organisme, et que cela se passe évidemment le jour des apparitions de Fatima, ne manquera pas de susciter en Jean-Paul II une réflexion très profonde qui va fortifier cette dimension mystique qui ne cessera de développer tout au long de son pontificat.
Vous parlez de portée politique. En même temps, on présentera pendant longtemps Ali Aksa comme un fou, un déséquilibré. Est-ce que cette lecture politique était visible au moment de l'attentat ?
Bien, Ali Aksa, c'est un tueur patenté, c'est un homme qui est entré dans des réseaux qu'on appelait les loups gris, qui avait comme projet de détruire l'Occident et qui prenait l'anticatholicisme au nom de l'islam. Bon, je crois qu'on a compté plus d'une centaine d'interprétations différentes qu'il a données de son attentat, de façon à brouiller plus ou moins les pistes. Tout le monde est aujourd'hui sans savoir exactement, c'est comme pour Kennedy, mais tout le monde sait que Oswald n'avait pas agi seul. On sait également que pour Ali Aksa, qu'il n'a pas vraisemblablement agi seul, car comment un homme comme lui aurait-il pu obtenir un revolver de cette puissance, un Browning de cette puissance, dans un pays dont il ne connaissait pas la langue? Manifestement, il y a tout un réseau dont les fils n'ont jamais été débrouillés, mais qui quand même prouve que Ali Aksa n'avait jamais agi seul.
Et pour Jean-Paul II, qui était justement ce personnage de Ali Aksa, lui qui lui a pardonné, qui lui a rendu visite en prison, qui a même demandé sa grâce?
Eh bien, vous savez, Ali Aksa a dit, après la visite que le pape lui a rendue, il a dit: de toute façon, maintenant, le pape sait tout. Dans le dernier livre que le pape a écrit, hein, Mémoire et Identité, il est quand même revenu sur cette histoire. Cela prouve que ça a été un des grands événements, évidemment, marquants de son existence d'homme, et puis également de son existence de pasteur du monde. Il est sûr que cet attentat l'a confronté à la fois à sa propre mort, à la maladie, à la souffrance. Il était toujours tellement sûr de son corps. Et il mettait justement ce corps de colosse au service de l'Église. Je crois que cet attentat est pour lui comme la clé de voûte presque de son existence. Cela lui a permis de donner à son pontificat et à sa catéchèse permanente une dimension peut-être encore plus spirituelle et plus mystique qu'il ne l'aurait fait sans cet attentat. Parce que la pratique pontificale de Jean-Paul II a été à la fois politique, mais surtout une grande part pratique émotive.
Est-ce que vous pensez un jour qu'on réussira à reconstituer un peu mieux ce qui s'est passé ?
Ben, il y aura certainement des enquêtes, il y aura des journalistes, il y aura des feuilletons télévisés, mais il y a un fond très obscur qui correspond à une période qui est quand même la période des années 80, qui correspond aussi aux grandes périodes de refondation géostratégique du monde, qui fera que ne sera jamais exactement ce qui a pu se passer.
On peut dire aussi que cela a donné une dimension encore plus forte au geste de pardon qu'il a toujours fait au cours de son pontificat.
Ah, bien sûr, je crois que quand Jean-Paul II faisait des actes aussi majeur que d'aller au mur des lamentations, d'embrasser un petit enfant atteint du sida, d'accepter de se montrer près du malaise même. Ce pardon qu'il a donné à Ali Aksa, c'est évidemment l'acte majeur chrétien.